Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de Société à l'émission. Aujourd'hui, nous commentons l'actualité politique, bien sûr, avec les deux Frédéric dans quelques instants. Un peu plus tard à l'émission, nous revenons sur ce que certains appellent le mouvement racialiste actuel, c'est-à-dire le retour, le surgissement ou l'apparition dans le débat public de la notion de race. Nous allons essayer de faire l'historique du concept de race en contexte québécois. Est-ce que c'est un retour auquel on assiste actuellement ou est-ce que c'est plutôt une nouveauté importée des États-Unis d'Amérique? On en discute avec l'historien Éric Bédard un peu plus tard à l'émission. Et s'il nous reste du temps en fin d'émission, Patrick White, professeur, vient nous parler de cette incroyable décision du géant Facebook. Je vous le dis tout de suite, sinon on en reparlera la semaine prochaine, sur le territoire de l'Australie. Je comprends bien que c'est loin, là, mais numériquement, c'est la porte à côté hein, aussi, de bloquer de bannir les médias d'information traditionnels de sa plateforme. Est-ce que ça veut dire que Facebook devient essentiellement le lieu de partage de photos de chats et de vos repas en temps réel? Et qu'est-ce que ça veut dire? Bref, on discutera de ça avec Patrick White, j'espère, dans cette émission. Sinon, la semaine prochaine, je l'espère tout autant. Alors, allons tout de suite jaser d'actualité politique avec les deux Fred, Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro. Bonjour! Et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Commençons par la COVID. On ne fait pas ça souvent, cette émission. Il faut parler de cette affaire-là aussi. On est quand même en pandémie. Après tout, c'est pas anodin. Frédéric Lapointe, on a assisté cette semaine à une espèce de joute santé publique contre santé publique. Ottawa, qui, contrairement à Québec, dit ce n'est pas du tout le temps d'assouplir les règles. Ce n'est pas le temps de faire relâche, de relâcher en à l'approche de la semaine de relâche, justement. Et on voit en Ontario, là, aujourd'hui, 400 cas découlant de contacts avec des variants, 400 cas de variants de la COVID. Les Ontariens, quant à eux, ont vu leur semaine de relâche annulée. Est-ce que François Legault et son gouvernement se trompent là-dessus?
Ben, je pense que chaque gouvernement vit avec ses commettants. Au Québec, nous avons une population qui est se conforme hein, quand même, mais qui est épuisée par toute cette situation. Et je pense que depuis le début, hein, la ligne du gouvernement caquiste a été non pas de faire des sacrifices immenses pour éliminer le virus du territoire. On sait que cette chose est probablement fort difficile, mais de naviguer entre deux eaux, entre deux vents, éviter que le système de santé soit complètement débordé. On a vu d'ailleurs cette semaine là, une jeune actrice est décédée du report de ses opérations. Donc, essayer d'éviter d'engorger le système de santé, mais de l'autre côté, de permettre à l'économie de redémarrer et aux gens d'avoir la vie la plus normale possible, en particulier les enfants. Donc, c'est un choix politique différent. Au Québec, on se permet de vivre un peu plus dans le contexte de la pandémie.
Mais est-ce qu'on est... Oui, parce qu'au début, vous avez dit au Québec, les gens sont fatigués. On imagine qu'ils sont fatigués ailleurs aussi, Frédéric Bérard. On n'est pas les seuls à subir ce qu'on subit en ce moment. Est-ce que nous avons, au fond, une approche, une action qui convient davantage à la culture québécoise? Est-ce qu'il y a des questions de trait de caractère collectif qui entrent en ligne de compte ici? Parce qu'on est aussi les seuls en Amérique du Nord à faire l'objet d'un couvre-feu.
Ça doit être notre petit côté latin.
Mais le couvre-feu, hein, qu'est-ce que c'est? On est plus dissipé, indiscipliné?
C'est ça, c'est le paradoxe de ce que vient de dire Frédéric, en quelque sorte. Je suis d'accord avec ça, avec ces postulats, mais avouons que c'est quand même franchement paradoxal. Frédéric vient de dire on a décidé de vivre un peu plus librement pendant la pandémie, ouais, avec un couvre-feu. C'est quand même assez particulier de vivre librement en étant obligé d'être à la maison à 8-9 heures le soir. Je sais pas. En fait, clairement, c'est qu'on essaie de faire plaisir à un, faire plaisir à l'autre.
on tergiverse. Et on connaît depuis le début aussi, hein, et ça c'était peut-être un petit peu, comment je dirais, je vais dire l'évidence, mais les liens particuliers entre François Legault et ses amis en matière d'affaires, le volet très affairiste hein, de la CAQ, quand Vincent Goudzot nous a fait la crise du popcorn.
Ah, on va y revenir, oui, après la crise du bacon, on a maintenant celle du popcorn, mais...
Le mot qui dit, ah, ben, on va te subventionner, mon très bon ami Vincent, t'inquiète pas. T'sais, clairement, on essaie de me faire croire que c'est pour autre chose que de faire plaisir à certains segments de la population ici et là.
Mais attendez, là, trouvez-vous vraiment que, et je vous pose la question, naïvement, que le gouvernement de la CAQ fait montre dans sa gestion de la crise d'une proximité avec le monde des affaires plus forte que, ou que cette proximité se manifeste de façon plus forte ici qu'ailleurs au Canada, avec le couvre-feu notamment, c'est pas très bon pour la business, ça, si je peux emprunter ce terme.
J'ai pas analysé l'ensemble des politiques dans les autres provinces. En fait, excusez-moi, on n'est pas une province ici, là, mais je veux dire des autres populations au Canada.
Merci.
Mais j'ai tiré ma leçon. Une fois qu'on a dit ça, par contre, rappelons-nous qu'on ouvre les salles de cinéma, mais on n'ouvre pas les salles de théâtre. On n'ouvre pas les salles de spectacle. Les salles de théâtre, c'est démontré, c'est le taux de transmission est à peu près l'un des plus faibles à ce niveau-là. Donc, pourquoi un cinéma est pas un théâtre? Ben, Legault a dit dans mes conférences, mon très bon ami Vincent, puis les enfants veulent aller voir des films. Ben oui, mais il y a des enfants qui aimeraient ça aller peut-être au théâtre aussi.
Alors, vous le croyez quand il parle de son ami Vincent, mais vous le croyez moins quand il parle de ses lectures, c'est ça? Vous croyez moins assez.
Ben là, encore une fois, voyez, là, en parlant du cinéma, là, nous a tous conviés à aller voir la déesse des mouches à feu, là, d'y aller en famille, là, de Geneviève Peterson. Pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est l'histoire d'une ado de 15 ans qui fait de la coke. Je ne sais pas si c'est vraiment le film familial par excellence, mais toujours est-il que pour François Legault, c'est une excellente idée. Je recommence. Pour
les films québécois, souvent...
de François Legault, oui. C'est toujours une excellente idée de lécher, disons-le franchement, dans le bon sens du poil, certains chroniqueurs de Québécois.
Et voilà, c'est dit. Les films québécois traitent souvent de sujets durs, hein, il faut le dire aussi, mais ce sera un sujet d'une autre émission. Mais Frédéric Lapointe, est-ce qu'on a cette... Allons-y, tiens, sur la question là, de la cohérence des mesures. On entend beaucoup ces critiques. Frédéric Bérard vient d'en formuler une. Pourquoi on ouvre les cinémas, pas le théâtre? Moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que la cohérence est au niveau du risque d'attroupement, en somme. Quand on va au cinéma, généralement, c'est en bulle familiale et on ne sort pas prendre un verre au café à côté ou enfin... Est-ce que ça peut être là la ligne de cohérence dans les mesures du gouvernement Legault? On craint moins les rassemblements au cinéma?
Ben, il faut poser la question au gouvernement, là. Je voudrais pas m'improviser spécialiste de santé publique, là, en improvisant en onde. Mais je tente quand même deux explications. D'une part, les cinémas sont des lieux où la circulation des gens peut se faire plus facilement parce que ce sont des espaces plus vastes.
C'est très grand.
Plus ouais. Vastes, c'est souvent très grand. Les théâtres, un peu moins. Par ailleurs, une prestation de film, il n'y a pas d'acteur sur la scène, d'acteur vivant, hein, physique. Et donc, ben, peut-être que c'est un autre volet d'affaires. Mais encore une fois, je trace comme un citoyen qui observe la situation deux différentes. Mais c'est au gouvernement d'expliquer ses décisions. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il commence à publier les avis de la santé publique. Et si j'ai bien lu, les avis de la santé publique semblent moins stricts que les décisions même du gouvernement. Alors, je ne sais pas si c'est arrangé avec le gars des vues, mais...
On va y venir, justement. Le gars des vues, c'est un beau choix de terme quand on parle de cinéma.
Oui, tout à fait.
Mais donc, Frédéric Bérard, allez-vous dans ce sens-là, vous aussi, malgré vos critiques, pensez-vous, tiens, par exemple, cette semaine, les gens des diverses associations sportives, clubs et autres, les gens du tennis, on dit pourquoi nous, on peut pas, on est à 60 pieds, enfin, je sais pas combien de quelle distance l'un de l'autre, il y a un filet entre nous deux, entre les joueurs, il n'y a pas de risque. Encore là, est-ce que c'est pas parce que on craint que les gens se côtoient de trop près au vestiaire, par exemple, ou dans le encore une fois, la petite boisson par après, ou j'en sais rien, c'est peut-être un peu moins familial, c'est-à-dire qu'on appelle un ami souvent pour aller jouer au tennis. Je prends cet exemple-là, mais il y en aurait d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une cohérence, là, malgré ce qu'on dit beaucoup?
Ouais. Peut-être.
Je comparativement au cinéma, là, toujours.
Ben, mais je suis quand même curieux que le cinéma ait été le grand élu après que François Legault je me répète, là, mais nous étale lui-même ses grands liens d'amitié avec le plus grand le plus grand propriétaire de salles au Québec, qui n'a pas la langue dans sa poche, ce gouvernement n'aime pas se faire critiquer. Plus tu critiques fort, plus tu as une grande gueule, plus tu es puissant comme Guzzo. Plus tu risques d'avoir ton anane versus le club de badminton de Mont-Saint-Hilaire, par exemple.
Non, mais c'est parce que les sports extérieurs, je pense que là, déjà, on relaxe un peu, là. On relâche un peu les règles.
Puis qu'on me comprenne bien, je veux dire, je comprends que les décisions sont difficiles. La seule affaire qui m'agace un petit peu, au-delà de l'aspect scientifique d'affaires qui est très souvent non démontré, Frédéric disait, je suis pas un spécialiste de santé publique, je peux pas vous le prouver. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu d'écrit nulle part, on n'a pas vu de notes, on n'a pas vu d'explications. Pourquoi? Parce que le gouvernement refuse de rendre ces écrits-là publics. Donc, nécessairement, on n'est pas plus avancé. Et je ne suis pas certain qu'ils sont beaucoup plus à même de savoir ce qui est mieux ou moins bien que Frédéric, par exemple, qui est peut-être pas un expert. J'ai comme l'impression qu'on navigue à vue de nez, ce qui est un peu normal pendant une pandémie, mais aussi on navigue surtout selon les espèces de, comment je dirais, les liens affairistes, les considérations plus partisanes, politiques pures, essentiellement. C'est-à-dire où on peut faire plaisir le plus possible à la population, et puis voilà.
Frédéric Lapointe, on parle depuis quelques instants là, de ces avis écrits de la santé publique dans lesquels qui ont été rendus publics justement hier matin tôt. On y découvrait un François Legault plus strict que M. Arruda. Souvent, on en mettait plus que le client en demandait. Ce sont des choix politiques légitimes par ailleurs. Mais il y a quelque chose qui a semé la confusion cette semaine, les oppositions notamment, puis j'ai lu ça ailleurs. Le gouvernement, semble-t-il, niait l'existence de ces avis. Est-ce que c'est exact?
Non, j'ai pas attrapé cette nouvelle. Mais bon, on peut imaginer qu'un gouvernement qui ne souhaite pas rendre public de tels avis vont, c'est peut-être une avocasserie, là, ou ce qu'ils ont l'habitude de faire lorsqu'on fait des demandes d'accès à l'information. Ah, ils demandent d'avoir, vous voulez avoir accès à un document, donnez-nous le titre du document et le sujet. Et si on n'a pas la chance de tomber exactement sur le titre et le sujet, ben on se fait répondre, ben, ce document n'existe pas. Alors qu'il y a un document qui représente 99% de ce dont on parle et qui lui existe. Alors, c'est le genre de choses qui se passent lorsqu'on fait des demandes d'accès à l'information à Québec. Alors, est-ce qu'ils ont joué sur ce truc-là pour éviter de rendre public trop rapidement des informations, je ne saurais dire.
Mais on essaiera de creuser cette question-là. Toujours est-il que, est-ce que c'était une bonne idée de les rendre publics? Est-ce qu'il y a un prix politique au bout du compte pour M. Legault, là, lorsqu'on apprend qu'il est plus sévère souvent que ce que lui recommandait le Dr Arruda, qui par ailleurs dit qu'il était évidemment parfaitement à l'aise, lui, avec les décisions de M. Legault?
Oui, ben, faut pas accorder une importance extrême à la transparence, je dirais, de l'ensemble des délibérations. Ces gens-là doivent être capables de prendre des décisions d'importance en dehors de, des crises de la foule.
Des O et des A.
Des O et des A. Mais il est important que on puisse, avant les élections générales, par exemple, se pencher sur ce que nos dirigeants ont fait au juste durant ces périodes de crise et donc que ces informations soient publiées avec un certain délai. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Si on apprenait, par exemple, avant les élections, qu'en dépit des conseils de la santé publique, le gouvernement a pris des risques très importants en déconfinant rapidement et que des morts, pas deux, trois, là, mais un grand nombre de décès s'en est suivi, ben on pourrait juger le gouvernement sévèrement. Et on devrait le juger sévèrement si ces informations sont gardées hors de l'œil du public avant les élections, mais que on soit pas tous dans la salle où la délibération se tient, je pense que c'est une manière de permettre au gouvernement de prendre des décisions sereines.
En terminant sur ce sujet, Frédéric Bérard, est-ce que l'enquête publique ou sous une forme ou une autre réclamée par les partis d'opposition sur la gestion de crise du gouvernement est une chose possible, envisageable? Pensez-vous qu'on va en arriver là?
D'entrée de jeu, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Frédéric là, sur la question de la délibération. Là, c'est pas à l'ensemble de la population d'être dans cette même salle-là, mais en même temps, il y a des impératifs de transparence qui sont nécessaires, particulièrement avant la prochaine élection. Et donc, je reprendrai ce propos-là pour répondre à votre question, Nick, en répondant essentiellement un peu la même chose. C'est que peut-être que ce n'est pas le bon temps précisément, peut-être que c'est encore un peu prématuré pour faire une enquête du genre, mais de toute évidence, il devrait y en avoir une. Évidemment, les partis d'opposition le font pour des raisons essentiellement, disons-le, partisanes, ce qui est normal, ça fait partie de la game, comme on dit. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'on puisse avoir une espèce de petit livre de recettes pour une éventuelle pandémie. Évidemment, on se la souhaite pas. On sait que la dernière qu'on avait eue, c'était il y a une centaine d'années, mais avec les réchauffements climatiques et les virus qui se libèrent actuellement.
La mondialisation aussi, notamment dans le transport. Là.
Exact. Et c'est très probable, de ce que j'ai compris de mes lectures, disons, scientifiques, entre guillemets, je ne suis pas scientifique, mais j'ai lu des trucs scientifiques à cet effet-là, qui disaient que, ben, de toute évidence, ça va arriver beaucoup plus rapidement que d'ici 100 ans. C'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 20 ans, peu importe. Mais au moins qu'on ait un livre de recettes à savoir comment on doit affronter une pandémie, chose qu'on ne pouvait avoir à ce moment-ci. Et moi, là-dessus, je ne blâme pas nos gouvernements, peu importe lesquels, en Occident notamment, sachant qu'ils ne pouvaient pas deviner la chose.
Oui, certains disent qu'ils auraient pu anticiper un peu, mais c'est un autre problème, notamment sur notre capacité à produire des vaccins. Dites-moi, donc vous dites qu'on devrait tirer des leçons pour être mieux outillés la prochaine fois. Maintenant, pour revenir à la question, Frédéric Bérard, de l'enquête, normalement, dans notre système, les partis d'opposition devant un gouvernement majoritaire ne peuvent pas obtenir ce qu'ils demandent comme ça en claquant des doigts, sauf dans un contexte de fort appui populaire, si on veut. Hein? Sentez-vous que les Québécois sont derrière les partis d'opposition là-dessus à tel point qu'on pourrait réussir à avoir une enquête qui nous permettrait de tirer des conclusions, sinon avant la prochaine élection, en tout cas avant la prochaine pandémie?
Personnellement, j'ai de la difficulté à voir cet appui-là de la population. Peut-être que je lis mal, là, ce qui n'est pas impossible. Évidemment, j'ai plus l'impression que la population a de toute évidence, et là je vais servir une autre la palissade, là, mais juste hâte d'en finir avec cette pandémie puis pouvoir retourner à son quotidien. Est-ce qu'elle va avoir le goût d'une étude sur le post-mortem de la gestion de l'affaire après coup? Franchement, j'en doute. Mais dans tous les cas, au-delà de l'aspect partisan, puis je sais que malheureusement c'est probablement ce qui compte le plus ici, là, pour nos amis politiciens, mais il devrait y avoir, je me répète, une étude indépendante qui puisse être effectuée pour qu'on puisse tirer des leçons, puis qu'on laisse ça sur la table de chevet la prochaine fois, puis qu'on arrête de prendre ça à la légère, comme ça a été le cas un peu au début, vous l'avez dit, avec le docteur Arruda, là, qui confondait d'ailleurs virus et bactéries quand il était au Maroc. La peur est pire que la bactérie elle-même, en tout cas, du n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que si on avait quelque chose de solide pour la prochaine fois, au-delà des récriminations, puis Legault aurait pas dû faire ci, puis blablabla, ça, à la limite, on s'en fout un peu. La personnification, si je peux dire, des acteurs ici ne m'intéresse pas beaucoup. Mais par exemple, juste en matière des CHSLD, puis je termine là-dessus, mais qu'est-ce qui explique une catastrophe comme celle-là? Comment on peut éviter ça la prochaine fois? D'entrée de jeu et non pas attendre un an là, que des vaccins débarquent.
Faut reconnaître que ça a été beaucoup mieux pour ce qu'on appelle la deuxième vague maintenant. Alors, c'est au moins ça de pris. Changeons complètement de sujet. Un sujet qui nous a justement fait oublier la pandémie pendant... par bref moment, c'est la cause de Mike Ward devant la Cour suprême. Je continue avec vous, Frédéric Bérard, parce que vous êtes l'avocat. D'abord, vous demandez où on en est techniquement là-dessus. Alors là, on a entendu un certain nombre de plaidoiries cette semaine, l'avocat Julius Gray notamment, qui a parlé d'un droit à ne pas être offensé qui n'existe pas. Où est-ce qu'on est rendu là-dessus avant de commenter sur le fond? Là?
Ben, en fait, là, c'est ça. Il y a une audience en Cour suprême de cette affaire qui dure depuis maintenant maintenant plus d'une dizaine d'années, qui avait commencé, ça c'est important de le dire, hein, devant le tribunal des droits de la personne au Québec, qui est une espèce de chambre, si je peux dire, de la Cour du Québec. Et pourquoi ça a débuté à ce moment-là et à cet endroit-là précisément, c'est important de bien le comprendre, parce que la Commission des droits de la personne a décidé de prendre fait et cause, en quelque sorte, pour Jérémy Gabriel. Ce que ça veut dire, c'est de dire, regarde, on va te fournir des avocats, on va plaider pour toi, t'en fais pas. Et ça, c'est important parce que si ça n'était pas arrivé, est-ce que Jérémy Gabriel serait en Cour suprême aujourd'hui, compte tenu des honoraires en jeu et des montants qui peuvent être peut-être obtenus si tout va bien pour lui? Franchement, j'en doute. Et pourquoi il a pu donc utiliser les services en quelque sorte de la Commission des droits de la personne? C'est parce que on considère que les propos de Mike Ward sont ce qu'on appelle de la diffamation discriminatoire. C'est-à-dire qu'on l'a discriminé sur la base d'un handicap, des choses qui est prohibée en vertu notamment de la Charte québécoise.
C'est la notion de discrimination aussi qui est nouvelle dans le débat, non? Autrefois, on aurait parlé de diffamation, d'atteinte à la réputation ou quelque chose du genre.
Évidemment, la diffamation existe depuis très longtemps, mais vous avez raison de le dire, la diffamation discriminatoire, donc sur un motif prohibé, là ici c'est l'handicap, mais ça aurait pu être le sexe, la religion, l'âge ou peu importe. Et ceci fait donc en sorte que là, ça devient compliqué tout ça pour la Cour suprême, parce que c'est pas juste un cas pur et simple de diffamation, c'est un cas de diffamation sur une question de discrimination. Et de l'autre côté, ce qui est encore plus complexe, c'est pas une question de liberté d'expression pure et simple, c'est une question de liberté d'expression dans le cadre d'un spectacle d'humour. À titre personnel, je la trouve pas drôle, moi, la blague de Mike Ward, je la trouve pas pertinente, je vois pas ce que ça apporte à notre société, c'est de l'acharnement sur un enfant qui est en situation d'handicap, qui était par contre une personnalité publique. Ça aussi, ça vient compliquer l'affaire. Et là, la question que la Cour suprême a à se poser est la suivante, c'est est-ce que j'accorde ou non une espèce de régime particulier pour ce qu'on appelle la liberté d'expression artistique. Elle avait refusé ce concept-là il y a plusieurs années, peut-être 25 ans, dans l'affaire Aubry contre vice-versa. Et là, maintenant, aujourd'hui, on lui demande de reconsidérer ce concept-là. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi qu'il y aurait un régime particulier pour, par exemple, les humoristes ou les écrivains ou les scénaristes, peu importe? Ben, moi, je répondrais à ça qu'il existe un régime particulier pour les journalistes, déjà. Hein, la liberté de presse est protégée de manière un peu distincte, et c'est une bonne chose, je pense, en démocratie. Donc, ici, c'est un peu la même affaire. On veut aller chercher, évidemment, une plus grande marge de manœuvre pour les humoristes et compagnie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des limites à ce concept de liberté d'expression artistique, et ce qui ne veut pas dire non plus que Mike Ward n'a pas franchi ces mêmes limites-là dans ce cas-ci. Mais toujours est-il que moi, je serais très déçu que la Cour suprême donne raison à Ward ou Gabriel, ça franchement c'est une chose, mais si elle ne reconnaît pas ce concept-là, ça franchement je serais déçu, très déçu même en fait, parce que vous savez que la Cour suprême, Nick, ne rend pas des décisions aux 5 minutes, là, tu débarques pas là comme dans un dépanneur couche-tard. Donc, sa décision, ben, on va l'entendre on va être obligé de la suivre pour un 5 ans, un 10 ans, peut-être une génération complète à ce moment-là. Et donc, compte tenu du fait qu'à titre personnel, je suis d'avis que la liberté d'expression perd du terrain de manière très inquiétante depuis plusieurs années, notamment chez les humoristes et autres artistes. Je pense que c'est le temps de mettre le pied à terre et clarifier la chose.
Mais là, en 2 secondes, pour revenir et terminer le volet technique, là, actuellement, est-ce que c'est terminé? La Cour délibère? Qu'est-ce qui se passe, au juste?
Oui, exactement. Donc, plaider en Cour suprême, c'est pas très long. Hein? Absolument, vous avez 20 minutes, et puis c'est un vrai 20 minutes. Là. Et après ça, on vous tire la plug. Et les juges auront à déterminer de ce qu'il y en est. Donc, ils délibèrent. Probablement qu'on pourra avoir une décision dans les 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, dans le pire des cas, parce qu'évidemment, ils ont plusieurs dossiers. Je m'attends à une décision partagée. Ça me semble assez clair qu'il va y avoir une dissidence assez forte. Il y a déjà 2 juges qui ont fait savoir à Maître Gray là, qu'il délirait total ou à peu près. Là, ils l'ont pratiquement...
Oui. Alors, en anglais, c'est ce juge qui réagit en disant « Ah, oh, come on! » Hein, en disant « Vous exagérez, franchement. »
C'est très rare qu'on peut voir une affaire comme ça.
C'est lorsque Maître Gray disait, à la limite, je paraphrase, mais il disait « À la limite, Mike Ward a accordé un traitement équitable et égal. Il a amené de l'égalité à M. Gabriel, puisqu'il l'a traité comme n'importe qui d'autre, sans égard à son âge ou son handicap. » Dans ce cas-ci.
Le juge Brown n'a pas apprécié cette allusion. Et rappelez-vous que le juge a utilisé cette ligne-là qui est la même que celle qu'on a plaidée au Danemark par rapport aux caricaturistes de Mohamed. Hein. On disait, ben, on leur accorde le droit à l'égalité, on ridiculise le prophète. Bon, là, il y a quand même une, je dirais, c'est quand même assez hasardeux là, comme ligne de plaidoirie. De toute évidence, il y a deux juges qui ont refusé cette même ligne. L'autre étant la juge Martin qui a dit à Josué, écoutez, votre client a quand même émis le souhait de noyer un enfant de 13 ans. Là. Alors, pour le héros, on va repasser. Là.
Mais justement, Frédéric Lapointe, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'on marche pas un peu sur la tête? Là? Quoi qu'on pense, et Frédéric Bérard l'a dit, de la blague de Mike Ward, on peut la trouver d'extrême mauvais goût, on peut la trouver méchante, on peut être la réprouver complètement, dire M. Ward devrait s'excuser, ou c'est une ordure, je n'irai plus voir son spectacle, qu'importe, j'en sais rien, écrire des textes, des livres, offrir des câlins de l'amour à Jérémy Gabriel, mais est-ce que il n'y a pas quelque chose d'inquiétant dans la légèreté avec laquelle on passe de cette émotion pure à l'idée de condamner un citoyen, lui faire payer une somme importante d'argent ou le mettre en, que sais-je, en prison s'il ne veut pas payer, parce que c'était un humoriste dans un contexte précis, il faut le dire, c'est de l'humour ordurier, le fameux humour trash, là, dont le principe même est de traverser la frontière du bon goût et de la décence et du bon sens autant que possible, ou en tout cas de jouer avec cette limite, dans un contexte, comment dire, entre adultes consentants dans une salle de spectacle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui de dangereux quand on s'aventure là?
Ouais, très certainement, Jérémy Gabriel n'a pas consenti à que son image soit utilisée pour que quelqu'un puisse faire de l'argent en le ridiculisant là, ou en mettant en scène de la violence dont il serait l'objet. Et donc, non, il y a une vraie question de, il y a des intérêts de l'un, les intérêts de l'autre se confrontent et il m'appartient pas là, de dire qui a raison là-dedans. Mais je voulais dire que
le second poursuive le premier pour justement diffamation, atteinte à sa réputation, j'en sais rien, traumatisme, je sais pas, mais dire voici, vous avez créé un précédent là qui s'inscrivant dans le cadre de la notion de liberté d'expression, c'est pas un peu dangereux quand même?
Il y a des limites à la liberté d'expression, puis je pense qu'il est raisonnable d'en débattre. Cela dit, très personnellement, moi, je m'inquiète là, de cette discussion qui se fonde sur des droits qui ont été octroyés pas il y a 500 ans avec toute une et que depuis on en a l'expérience, puis on voit les effets et tout ça. C'est les chartes, c'est quelque chose de récent hein, dans notre histoire. Et il y a des effets sociaux, il y a des effets culturels à tout ça, qui n'ont pas nécessairement été pris en compte au moment où ça a été voté. Dans le cas qui nous occupe, ben oui, effectivement, si le jugement est à l'effet que on ne peut pas mettre en scène quelqu'un de connu pour tenir un propos qui relève de l'humour, de la caricature et tout ça, mais ça aura
des effets. Souvenez-vous de lorsque les cyniques parlaient de Ginette Renault ou de Lise Payette. Bon,
les cyniques n'ont pas besoin de remonter aussi loin, là. Je les ai pas fréquentés.
Non, mais Rock et Belles Oreilles, oui, bien sûr.
Rock et Belles Oreilles, le bye-bye. Alors, c'est pas banal parce que l'humour, y compris l'humour méchant, c'est aussi une façon d'assimiler la réalité de l'autre. C'est aussi, et je suis pas devant la Cour suprême en train de plaider, mais c'est aussi une façon de...
Donc vous seriez excellent.
De ne pas invisibiliser. Donc c'est une façon parmi d'autres qu'une société utilise pour vivre avec ses différences. Et si vivre avec les différences, ben, désormais, on décide en vertu du droit que ça ne se fait que d'une façon, ben oui, ça a un effet sur la société, ça a un effet sur la culture.
Alors, on va méditer ces belles paroles. Merci beaucoup, les deux Fred. On vous reparle, j'espère, la semaine prochaine. Bon couvre-feu.
Hein? Au plaisir.
Allez, à bientôt.
Profitons de la pandémie.
Oui, c'est ça. Dans un instant, chers auditeurs, Éric Bédard est avec nous. Nous parlons de l'histoire, du concept... enfin, on va essayer de se comprendre sur le concept de race au Québec.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, si vous allez, par exemple, sur la première page du site Internet de la Commission canadienne des droits de la personne, vous allez voir le mot « race » plusieurs fois, écrit en toutes lettres, sans guillemets, sans mise en contexte. La race comme catégorie, comme façon de distinguer les gens les uns des autres. J'entendais récemment à Radio-Canada un journaliste sérieux parler d'une personne biraciale, puisqu'elle avait des parents, chacun de couleur de peau différente de l'autre. Alors bref, c'est le retour. On a l'impression que la race est réhabilitée d'une certaine façon. Vous pouvez aussi lire des travaux d'universitaires sérieux, encore une fois, qui prônent le retour de l'usage du concept de race parce que, bien que d'un point de vue biologique, il soit assez unanimement entendu maintenant que la race n'existe pas. Ces universitaires, ces chercheurs prétendent que ou disent que la race existe néanmoins comme construction sociale et que par conséquent, il est opportun de se pencher sur ce phénomène et de ne pas hésiter à employer le terme. Maintenant, dans le cadre québécois, est-ce que cette espèce de mouvement racialiste là, est un retour, une réhabilitation d'une vieille notion, ou est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'on est en train d'importer ici les catégories mentales américaines au sens états-unien du terme? Peut-être qu'il faut se pencher sur notre histoire pour arriver à un début de réponse à cette question, et qui de mieux placé qu'un historien et qu'Éric Bédard pour répondre à cette question? Bonjour Éric Bédard.
Bonjour, Nick.
Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Est-ce que vous avez l'impression, vous, de l'inauguration de quelque chose au Québec, ou si on est en droit de penser que la race a déjà fait partie de notre culture davantage qu'aujourd'hui? Vous savez, les États-Unis d'Amérique, personne, il n'y a pas de débat. On comprend bien que de l'eugénisme à ce que certains ont appelé le darwinisme social, le suprématisme, le racisme blanc, tout ça est au cœur de l'histoire de ce pays-là. Est-ce qu'on peut en dire autant au Québec? Tiens, posons la question comme ça.
Non, je vous surprends pas tellement avec ma réponse.
Ah ben, je sais pas. Oui, peut-être que certains seront surpris. Alors, vous avez répondu. Merci, à la prochaine. Non, mais développez.
Non, je vais développer un peu. C'est-à-dire que oui, à bien des égards, c'est une importation. Et comme vous le dites, on peut très, très bien comprendre que c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN, là, de l'histoire. Ça a marqué l'histoire américaine au fer rouge. Il faut voir que les premiers pèlerins qui se sont installés en Nouvelle-Angleterre, ils voulaient recréer une sorte de cité parfaite, cité de Dieu. Ils n'étaient pas très intéressés d'avoir des liens aussi avec, par exemple, les Autochtones. Ils s'installaient là pour essayer de développer un monde plus proche des valeurs chrétiennes, des valeurs de la Bible, alors que...
C'est à partir aussi d'une perspective raciale, non? C'est-à-dire qu'on croyait en la supériorité, de race et de culture et d'ethnie, tout ça était mélangé, là.
Oui, mais attention, ça dépend quelle époque on parle. Là, quand on est, par exemple, au 17e siècle...
Ah oui, pardon.
Là, si on est au 17e siècle, la dimension de la race, c'est loin d'être clair, c'est loin d'être évident. Et je vous donne une citation célèbre qu'on répète souvent, mais je pense à bon droit. C'est une phrase que laisse tomber Samuel de Champlain lors d'une cérémonie avec des chefs autochtones à Québec, réunis à Québec. On parle à ce moment-là d'une colonie habitée par à peine quelques centaines de personnes, gros maximum. Et Samuel de Champlain dit à ses vis-à-vis autochtones: un jour, nos hommes marieront vos femmes et nous ne ferons plus qu'un peuple. C'est rapporté dans les relations des Jésuites pour l'année 1633. Et donc, cette phrase-là, importante, célèbre, intéressante, montre bien que ça ne posait pas de problème pour un personnage comme Samuel de Champlain qu'il y ait cette espèce de mixage qui aurait pu être à l'origine d'un peuple bon. Donc la dimension proprement raciale telle qu'on va commencer à la développer ou telle qu'elle va devenir beaucoup plus prégnante au 19e siècle, pour les acteurs du 17e siècle, c'est pas clair.
Oui, et j'ai dû mal vous interpréter. Vous parliez, maintenant je le comprends mieux, au début de notre entretien, donc des colons français là, à l'origine.
Je parlais des pèlerins américains.
Ah oui, d'accord. Oui, OK,
donc,
j'avais bien compris.
Les pèlerins américains, eux, mm-hmm. voulaient construire une société. Ils étaient comme un peu... comment je dirais ça, là, je cherche le bon mot, autarciques, hein, ils vivaient entre eux, entre leur communauté, mm-hmm. Partageant la même communauté de foi et tout ça, des gens mystiques, hein. Oui. Et donc, c'est pour ces gens-là, le contact avec les Autochtones, c'était pas un projet. Alors que.
Mais donc, même chez eux, la question, la notion de la race arrive un peu plus tard, en fait. C'est ce que vous nous dites.
Arrive plus tard, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Même au moment inaugural de l'histoire américaine, la rencontre avec les Autochtones, c'est pas un enjeu important parce qu'on veut établir là des gens qui vont être des paysans, des agriculteurs, qui vont et donc on met des clôtures et la différence avec nous, c'est que nous, dès le départ, notre commerce, c'est un commerce de fourrure. Et dans le fond, la colonie dépend tellement de ce marchandage, de ce commerce avec les Amérindiens, qu'on n'a pas le choix de travailler avec eux. Donc, c'est pas parce que les Français sont nécessairement des meilleurs êtres humains, mais le fonctionnement même de la colonie ou du comptoir de commerce au moment, au tout début, nécessite un lien avec les Autochtones, un lien essentiellement commercial, mais comme la citation que je viens d'évoquer avec vous, de Samuel de Champlain, le montre bien, ce lien aurait pu aller plus loin. Il n'y avait pas de fermeture. Quand Marie, par exemple, de l'Incarnation arrive ici, en 1639, et qu'elle fonde une école à Québec, le but, c'est d'éduquer les Autochtones, évidemment. On avait une conviction que le christianisme était supérieur, ces pauvres Autochtones étaient des païens, donc il fallait les élever, il fallait les rendre de bons chrétiens, mais il y avait quand même cette idée de travailler avec eux,
Alors, vous dites que je reviens à cette assez formidable citation de Samuel de Champlain, elle installe en quelque sorte le métissage au cœur du projet, non? Ou en tout cas, elle ne l'exclut pas d'emblée, c'est ce que...
Exactement.
Est-ce que ça nous marquera jusqu'à aujourd'hui, ça, d'après vous, ou...
J'ai l'impression, moi, que dès le moment inaugural de la Nouvelle-France, il y a cette ouverture, il y a cette possibilité, il y a aussi faut voir que ces Français-là, les Français de la génération de Champlain, ce sont des Français qui viennent de vivre les guerres de religion extrêmement déchirantes et d'une violence inouïe. Hein. Il y a eu des cas de cannibalisme en France, il y a eu des cas des meurtres absolument épouvantables dans certaines petites villes de France où des catholiques sont allés à la chasse aux protestants, les ont tués, dépecés, désolé pour vos éditeurs, mais c'est... Et donc, il y a un certain nombre de ces Français qui sont tout à fait désenchantés et qui ont le sentiment que la France peut être guettée, elle aussi, par une forme de barbarie, de violence, parce qu'elles en ont été les témoins. Et donc, ça les rend... ça leur donne une sorte... une sorte d'humilité. Vous avez les écrits d'un Michel de Montaigne... qui va écrire un texte qui va s'intituler « Les cannibales ». Lui, il s'inspire beaucoup de ce qu'on lui a raconté de l'expérience au Brésil. Il est très ironique sur le fait qu'il y a des Français qui arrivent en Amérique et disent « Nous, on va vous civiliser ». Montaigne est extrêmement ironique. Il dit « Oui, est-ce que vraiment on doit leur faire la leçon, nous qui avons vécu tout ça ?» Il y a ce climat un peu de désenchantement, de trouble, qui a beaucoup marqué les Européens, les Français de la fin du 16e siècle et du début du 17e siècle, qui fait en sorte que vous avez aussi, c'est le cas d'un Marc Lescarbot. Marc Lescarbot, c'est quelqu'un qui va accompagner Poutrincourt, ceux qui ont fondé en fait l'Acadie. Il sera donc en Amérique, en Acadie de 1606-1607. Il va écrire la première grande histoire de la Nouvelle-France en 1609. Et Lescarbot, lorsqu'il évoque les Amérindiens, et d'ailleurs il est cité, l'escargot, ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine, tous les grands spécialistes en anthropologie à travers le monde que j'ai lus citent constamment l'escargot, puisque l'escargot a une vision finalement très désenchantée aussi des Français, de la France, et il dit « oui, c'est vrai, les Autochtones ont des pratiques parfois bizarres, très cruelles, mais est-ce que nous, on est bien placés pour leur faire la leçon, nous, Français ?» Et d'autant plus que nous, Français, on est en train de réfléchir à nos origines, à notre identité. Pendant tout le 16e siècle, ça traverse les écrits français. Les Français réfléchissent à leurs propres origines. Et il y a un débat entre eux sur est-ce qu'on est finalement des conquis ou des conquérants. Autrement dit, est-ce qu'on est des Gaulois qui avons été conquis, nous aussi, et donc civilisés par les Romains, ou est-ce qu'on n'est pas des Francs qui avons civilisé une partie de l'Europe? Et il y a beaucoup de gens qui pensent que les Français sont finalement d'anciens barbares. Donc, ça leur amène à avoir une sorte d'ouverture, à dire oui, c'est vrai que ces Autochtones n'ont pas notre foi, ils n'ont pas notre culture, mais nous aussi, dans un temps très lointain, on était comme eux. Et on a été civilisés, donc c'est possible, en travaillant avec eux, de les, en guillemets, civiliser, de leur partager, de les convertir. Et voyez, donc, on n'est pas dans... Voilà des ennemis de notre race, il faut les éliminer pour s'installer ici. Pas du tout comme ça que ça se passe au début de la Nouvelle-France.
On n'est pas donc dans la distinction ou dans une forme de hiérarchisation sur le principe de la race, dites-vous. Mais j'ai envie de vous poser une question sur... vous avez quand même ceux qui disent... Je pense à cet auteur et professeur Pierre Nepveu, qui écrit un livre qui s'appelle « L'histoire du racisme au Québec », dans lequel il fait état de deux mythes persistants qui meublent un peu notre espace mental. D'une part, un mythe qui est entretenu par le dominant, si vous voulez, canadien-anglais, à l'effet que les Canadiens-Français sont moins démocrates, racistes, xénophobes, fermés, et le reste. Une pensée qui a la couenne dure et qui n'hésite jamais à revenir, surtout en temps de crise, là. Et ça, c'est Nepveu qui dit ça. Moi, j'ai envie de dire pas seulement en temps de crise. Et un autre mythe qui est un peu une réponse à ce mythe-là, qui est celui du Québec d'aujourd'hui, peut-être, de dire ça n'a pas existé, le racisme, dans notre histoire. Tout cela est une fumisterie. Nous sommes beaucoup moins pires que les autres, tiens, pour le dire comme ça. Et que la réalité serait peut-être entre quelque part entre ces deux pôles.
Oui, je comprends. Non, il ne s'agit pas de dire que, les premiers Canadiens, éventuellement les Canadiens français du 19e siècle, était complètement imperméable aux idéologies racialistes qui se sont développées au cours de l'histoire.
Ça a percolé, là. Arthur de Gobineau, ce livre-là sur je me souviens pas du titre, mais qui traite de la race et qui hiérarchise.
Mais c'est le 19e siècle, et là-dessus, les Canadiens français étaient des gens de leur temps, donc on a des gens comme Hector Langevin et d'autres qui ont participé à ce gouvernement de McDonald qui a voté la loi sur les Indiens, par exemple.
Et l'antisémitisme, évidemment, qui lui est beaucoup plus documenté, compte tenu de la place qu'occupe la communauté juive dans l'histoire. Là, on en a beaucoup parlé, donc on sait. Il y en a eu au Québec, beaucoup.
Il y en a eu, absolument, il y en a eu. C'était un antisémitisme, nous dit Pierre Anquetil, le grand spécialiste de l'histoire des Juifs au Québec. C'était un antisémitisme, disons, essentiellement chrétien, catholique, plutôt que révolutionnaire et politique, en majorité, j'entends. Les Juifs avaient tué le Christ, c'était un peuple dont il fallait se méfier. Les Juifs qui ne s'intégraient pas, qui ne s'assimilaient pas à la communauté, qui étaient comme, en guillemets, des parasites. Mm-hmm. On n'arrivait jamais à les assimiler, c'était la perspective qu'on avait. Et ça entraînait une espèce de rapport amour-haine. Donc, d'un côté, on pouvait les admirer parce qu'ils se tenaient entre eux, mais de l'autre côté, ils pouvaient s'avérer aussi une menace. Et on oscille constamment dans le discours un peu antisémite, chrétien, classique, entre ces deux. Mais de là à aller jusqu'à l'idée de les exterminer ou de les... Là, il y a un pas que pas beaucoup de gens au Canada français ont franchi, une frontière que peu de gens ont franchi, à part peut-être Adrien Arcan, évidemment, et son groupe. Mais c'était une idéologie, il faut le rappeler, révolutionnaire, athée, et tous les chrétiens ne pouvaient pas adhérer, le moindrement croyant, là, ne pouvaient pas adhérer à une idéologie révolutionnaire qu'on considérait païenne. Et bon. Alors donc, oui, tout ça a été étudié. Donc oui, il ne s'agit pas de de dire qu'il n'y en a pas eu. Il s'agit pas. Mais il faut voir que c'est intéressant. Hein, il y a Tocqueville qui dit les commencements, les origines nous apprennent des choses sur l'histoire d'un peuple. Fernand Dumont répète cette phrase-là dans sa genèse de la société québécoise. Et c'est intéressant de voir que le moment inaugural de l'histoire du Québec, c'est une tabagie, c'est une belle rencontre, c'est une fête hein, à Tadoussac en mai 1603. Et donc, c'est pas un massacre. C'est pas un massacre, c'est une fête, c'est une main tendue, c'est du donnant-donnant, c'est des Français qui disent, écoutez, nous, on aimerait ça s'installer ici, mais évidemment, on veut instaurer un monopole de la fourrure, vous devez faire affaire avec nous. Les Autochtones nous répondent, OK, très bien, vous êtes les bienvenus, vous allez combattre maintenant avec nous nos ennemis, les Iroquois au sud. D'ailleurs, on revient d'une guerre, vous voyez les scalps, on vient de gagner, et on est très heureux de ça. Donc, vous avez des armes, vous avez une technologie, vous allez nous aider. Et donc, c'est du donnant-donnant. Et pendant un siècle, la colonie tient, et même jusqu'en 1760, la colonie tient par ses alliances. Et même une prouesse d'alliance. Il y a eu de l'esclavage, évidemment, à l'époque de la Nouvelle-France.
Ben, j'allais vous poser la question. C'est vraiment dans les discussions à l'heure actuelle. Souvent, ce sujet est amené par les défenseurs de la théorie du racisme systémique et ceux qui prônent justement le retour là, ou l'usage du concept de race dans le débat d'aujourd'hui. Et ils disent donc, il y a eu au Québec, comme aux États-Unis, enfin, peut-être pas dans la même mesure, mais de l'esclavage, des choses horribles. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
On en sait. D'abord, on a fait un bon tour de la question depuis la bonne synthèse de Marcel Trudel.
Mais là, on va vous répondre, Éric Bédard, que ça, c'est l'histoire des Blancs. Hein? On entre dans un autre débat. Là. Qui raconte l'histoire qu'il a fait?
Oui, mais là, je pense pas que Marcel Trudel a écrit ce livre en tant que Blanc. Il a écrit en tant que chercheur, savant. Il a été dans les archives.
Et certains vous contesteraient là-dessus.
Ben, écoutez, si je m'excuse, mais là, on parle d'archives. Alors là,
bien sûr.
Si les archives n'ont plus de sens, alors je ne sais pas à quoi servent les historiens. On essaie de documenter des faits, et justement, Marcel Trudel l'a fait, mais avant lui. Mais ce que j'aime pas dans le discours, j'entends parfois Webster ou d'autres, c'est comme si on voulait cacher ça. C'est très connu, ça, qu'il y a eu de l'esclavage. Je dirais que c'est très connu, même depuis le milieu du 19e siècle, puisque François-Xavier Garneau, hein, on vient de faire une excellente biographie de lui par Patrice Grou, François-Xavier Garneau disait dans son chef-d'œuvre, mais il disait qu'il n'y avait pas d'esclavage. Bon. Et là, il s'est fait tout de suite taper sur les doigts par les artisans de la toute jeune Société historique de Montréal qui avait été fondée par un certain Jacques Vigée, et même Louis-Hippolyte Lafontaine avait collaboré à une petite étude publiée dans les années 1850 pour prendre en défaut, qui prenait en défaut Garneau, en disant non, il y a eu de l'esclavage. Donc c'est connu depuis très longtemps. Mais pourquoi ça n'a pas marqué notre mémoire? Parce que c'est une honte, tout ça. Moi, je vous formulerais une autre hypothèse. C'est parce que ce n'est pas un phénomène massif.
Alors, c'est une question de proportion, donc.
Il y a eu de l'esclavage, mais nous n'avons pas été, contrairement à Saint-Domingue ou à l'Amérique, aux États-Unis ou au Sud, on n'a pas été une société esclavagiste. Il y a eu de l'esclavage, mais dans une société qui n'était pas basée, fondée sur l'esclavage pour assurer la prospérité. Ou
le système économique, donc, n'était pas construit pratiquement autour de ce procédé-là.
Il y a eu des esclaves, donc, noirs qui venaient du Sud, mais il y a eu aussi un certain nombre d'Autochtones qui venaient du milieu du continent, qui étaient souvent rapportés par d'autres Autochtones comme une monnaie d'échange.
Alors, j'allais vous poser la question du rôle des Premières Nations dans l'esclavage. Elles ont été esclaves et elles ont aussi participé au système, non? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre?
Absolument, complètement. Tout comme, d'ailleurs, les Africains ont collaboré ou à l'esclavage africain. Hein. Vous savez que, selon les chiffres de Olivier Pétré-Grenouillot, dans sa grande synthèse sur l'histoire de la traite négrière, il dit bien que c'est autour de 5 à 10 % des Noirs africains qui ont été capturés par des Blancs hein, qui arrivaient sur les côtes. Donc, presque 90 % des Noirs qui ont été trafiqués, qui ont été marchandés, étaient ramenés par d'autres Noirs, d'autres Africains, et donc, dans une forme de commerce macabre. Et de la même façon, donc, il y avait un certain nombre d'Autochtones qui débarquaient dans les grandes foires de fourrures de Montréal de la fin du 17e siècle et ramenaient avec eux des cargaisons d'ennemis autochtones qu'ils avaient capturés et qu'ils transigeaient. Mais de la même façon que les Autochtones eux-mêmes, lorsqu'ils se faisaient la guerre entre eux, Donc, évidemment, ils étaient sans merci pour les guerriers, avec toutes les tortures qui pouvaient suivre, mais ils adoptaient. Alors, c'était pas comme tel de l'esclavage, mais ils demandaient pas quand même la permission à ces femmes et à ces enfants, mais on adoptait les Autochtones qu'on avait été combattre. Et d'ailleurs, ça a été le cas de Pierre-Esprit Radisson, qui a été adopté par des Iroquois, et c'est une histoire d'ailleurs incroyable, mais ça, ça sera une autre émission.
Ben voilà, puis qui est plus qu'une station de métro, donc plusieurs l'apprendront. Oui. Revenons un instant sur les Afro-descendants, on les appelle comme ça aujourd'hui, c'est ceux qui furent esclaves, ici au Québec, au Canada français, ont-ils des descendants parmi nous aujourd'hui?
C'est une très bonne question, j'ai pas les chiffres, je crois que ça, je sais pas si ça a été bien documenté, je crois que oui, bien honnêtement, je ne connais pas les chiffres, mais c'est pas beaucoup de monde. Hein. Parce que les chiffres que, si je me souviens bien, de Marcel Trudel, pour toute l'époque de la Nouvelle-France, on parle de 5000 esclaves, et là-dessus, il y en a moins de la moitié là, qui étaient d'origine africaine. Donc, on parle peut-être, je sais pas moi, de 2000, 1500 personnes d'origine africaine qui ont été esclaves ici, dans la vallée du Saint-Laurent. Écoutez, ça fait pas énormément de monde. Je sais pas ce que sont devenus les descendants de ces 1500 esclaves. Sauf que ce que je peux dire, je pense qu'avec beaucoup de solidité, c'est que la plupart des Noirs du Québec sont, en ce moment, là, en 2021, les descendants d'Haïtiens. Je pense que ça, c'est pas une grosse erreur statistique de le dire. Or, il faut quand même reconnaître que le Québec a été accueillant, a accueilli des réfugiés politiques haïtiens qui fuyaient la dictature de Papa Doc et où ensuite qui ont voulu tout simplement améliorer leur sort et ceux de leurs enfants. Donc, on les accueillit soit comme réfugiés politiques, soit comme immigrés, soit dans le cadre de reconstitution des familles. Là. Et donc, les Noirs qui sont ici au Québec en ce moment, ils devraient aussi dire que leurs parents ou leurs grands-parents ont été accueillis assez généreusement, je pense. C'est pas exagéré de le dire, par le Québec. Certains, d'ailleurs, de ces Haïtiens...
Ben, certains le font, hein, oui.
Ben, oui, absolument, certains le font. Mais je parle peut-être des franges plus militantes qui remontent toujours à la Nouvelle-France, alors qu'eux-mêmes sont rarement des descendants d'esclaves, ils sont des descendants d'Haïtiens, et puis c'est très bien.
Mais les franges plus militantes dont vous parlez, Éric Bédard, plus militantes, disons-le, racialistes, faute de meilleurs termes, là, ils contesteront s'ils ne sont pas d'accord, mais sont aussi souvent plus jeunes. Il y a une question générationnelle dans ça. Vous, l'historien, là, je vous amène aujourd'hui, puis on va terminer notre entretien là-dessus. Est-ce qu'il y a une cassure? Qu'est-ce qui est en train d'arriver, d'après vous? Est-ce qu'on est vraiment en train de s'américaniser? Et c'est ce qui expliquerait donc cette nouvelle lecture des choses nettement plus américaine des choses, il faut le dire, du moment où on pense que le Québec, c'est pas pareil comme les États-Unis. Là.
Oui, c'est mon impression. C'est qu'on plaque sur la situation québécoise des phénomènes proprement américains. Je croisais des jeunes qui avaient été manifestés à Montréal. Je parlais des jeunes francophones qui avaient été manifestés pour déplorer la mort de George Floyd. Et on peut tout très bien le comprendre, c'était horrible, mais qui n'ont pas été manifestés pour l'assassinat de Samuel Paty. Donc, alors qu'il est un assassinat tout aussi horrible pour des raisons, enfin, un enseignant. Bon. Alors, vous voyez, ça marque, et ça, c'est très prégnant. Ça marque beaucoup les jeunes. Et on est, je pense, plus dans une forme d'idéologie importée, plaquée. Beaucoup de nos jeunes écoutent des séries américaines. Et donc, comme ils n'ont pas toujours la connaissance de l'histoire du Québec, vont présumer que ça a été comme ça ici, qu'on est arrivé, on a tué tout le monde, et puis on a été des esclavagistes comme les Américains. Et il y a beaucoup, beaucoup de méconnaissance.
Ça sera le sujet de notre prochain entretien, les cours d'histoire. Éric Bédard, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci d'avoir nous avoir éclairé là-dessus. Puis on continue de réfléchir et à une prochaine.
Ah oui, merci à vous. Au revoir.
Merci à vous. Dans un instant, chers auditeurs, un bref entretien avec Patrick White sur Facebook. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Puis il était, il a été à plusieurs endroits, mais plus récemment au Huffington Post. Il est depuis 2018 professeur à l'UQAM. Patrick White est avec nous. Je vais rapidement dans la présentation. Bonjour Patrick White.
Bonjour.
Parce qu'il nous reste quelques instants, mais on tenait à vous parler. Qu'est-ce qui se passe en quelques, si vous voulez nous résumer ça un peu, Facebook... est-ce que Facebook a vraiment jeté dehors les médias traditionnels de sa plateforme en Australie et pourquoi?
Ben, tous les médias australiens maintenant ne sont plus accessibles sur Facebook pour la planète au complet. Donc ça, c'est un enjeu majeur de déni de démocratie. Donc l'Australie est devenue une espèce de champ de bataille, une espèce de cobaye pour Facebook. C'est le premier pays à subir ça. Essentiellement, depuis 3 ans, l'Australie planchait sur un code de conduite, un projet de loi qui visait le fil d'actualité de Facebook et les recherches de Google. On veut qu'il y ait un partage de revenus des géants du web, Facebook et Google, pour les médias australiens qui vont pas très bien. Ce projet de loi a été approuvé cette semaine par le Parlement australien. Il va être débattu lundi par le Sénat australien et devrait être adopté d'ici la fin de la semaine. Et il va y avoir des arbitrages avec ces projets de loi-là devant les tribunaux. Aussi des amendes extrêmement salées pour chaque pénalité. 7 millions de dollars par pénalité si Google, Facebook ne compensent pas les médias australiens ou 10% du chiffre d'affaires des médias, de ces géants du web-là en Australie. Donc, c'est vraiment la guerre. Les perdants, les citoyens australiens, les plus petits médias également, les sites qui ont été bloqués officiellement sur Facebook, en particulier les services de secours australiens. Donc, l'Australie qui estime que Facebook a trop de pouvoir, qu'elle vole les revenus publicitaires des médias du pays. Pendant ce temps-là, ben, on comprend que Facebook est une entreprise privée qui estime qu'elle n'a pas à rendre de compte à personne. Mais c'est vraiment l'exemple d'un mauvais citoyen corporatif. Facebook est vraiment une plateforme publicitaire de données. Et là, on dit, ben nous, en Australie, on ne fait pas de revenus avec l'information. On envoie déjà 5 milliards de clics par année aux médias australiens. Alors, arrangez-vous.
Arrangez-vous, c'est suffisant.
Ce n'est pas à nous de régler vos problèmes, mais c'est un échec de relations publiques pour Facebook. Ça, c'est très, très clair.
Ben, j'allais vous poser la question. Est-ce que c'est tenable, cette position pour Facebook? Est-ce que j'ai une mauvaise perception, moi, de la proportion des utilisateurs de ce média qui aiment partager des contenus d'information ou reliés aux médias? Est-ce qu'au fond, la majorité des utilisateurs ne fait que partager des photos de chats et autre chose? Je me trompe sur ce qu'est Facebook?
Non, les chiffres officiels en Australie de l'agence Reuters montrent que 52% des Australiens utilisent les médias sociaux comme source d'information. Ça, c'est les chiffres pour 2020. Donc, ça, c'est une réalité. La réalité aussi, c'est que les grands perdants dans tout ça, c'est les plus petits médias australiens, pas les grands groupes comme Rupert Murdoch avec News Corp ou Channel 9, un grand groupe là-bas, qui, eux, ont déjà des ententes signées depuis cette semaine avec Google. Donc, Google qui était très pragmatique en Australie, Facebook pas du tout, mais Facebook et Google ont déjà des ententes dans plein de pays pour le partage des revenus, autant aux États-Unis, au Royaume-Uni qu'en France. Donc, il va falloir un peu copier ce qui se fait en France, c'est-à-dire des négociations où il y a une taxation des profits, et il va falloir faire une alliance des pays de l'OCDE qui veulent, d'ici le milieu 2021, donc cette année, avoir un accord international sur la façon de taxer les géants du web, donc une coalition internationale dont fait partie Stephen Guilbeault et M. Trudeau qui est en contact.
Patrick White, savez-vous quoi? On va essayer de continuer là-dessus la semaine prochaine si vous êtes disponible. Le temps nous manquait, on voulait absolument vous parler.
C'est un abîme entre Facebook et le monde des médias.
Alors on continue là-dessus, à très bientôt. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nick Payne qui vous dit à samedi prochain pour une autre édition de Société.